Alors, s'il est là, on va lui dire bonjour d'abord. Et puis, comme on n'a jamais tellement de temps et que le personnage est gigantesque, alors nous allons tout de suite commencer. D'abord, en le saluant, Monsieur Louis-Jean Calvet, bonjour.
Bonjour.
Et si je commençais, tout à l'heure, j'ai fait entendre à notre auditoire Monsieur Toublanc, dont on pourra parler, mais si je faisais entendre d'abord un morceau d'une pièce que vous pourrez commenter. Allons-y pour voir.
On s'est rencontrés par hasard ici ailleurs, ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ça n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais. De quoi chanter, de quoi rêver. Tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps.
Ah oui, voilà. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a à peu près tout dans cette chanson, Monsieur Calvet, sur Léo Ferré. Il y a Madeleine, il y a de la musique, il y a ses paroles, cette voix absolument extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de la vie d'artiste?
Ben, ce dont elle nous parle, c'est ce que vous venez de dire, bien entendu, hein, une rupture, mais en même temps, et peut-être surtout, c'est la dualité dans la vie de Léo. Ces chansons ont été chantées au départ.
Oui.
À la fin des années 40, au début des années 50, il y avait une mélodie très belle d'ailleurs. Et puis la reprise beaucoup plus tard, comme ça en la disant, en la scandant et en la déconstruisant. C'est-à-dire que là, on s'est arrêté un peu au début, mais si on va jusqu'à la fin et sur scène, je ne sais pas d'où vient cet enregistrement, je ne le connaissais pas. Hein,
oui.
Mais il commence à gueuler les mots, à les dégueuler, même à cracher. Et il y a une sorte de dérision de la chanson en même temps que de haine, d'une partie de son passé qui passe dans la voix.
Monsieur Calvet, je vois votre photo. Vous êtes un tout jeune homme. Vous êtes...
Oh.
Sur la photo, en tout cas.
Oui, quelle photo avez-vous sous les yeux, je ne sais pas.
Oui, mais en tout cas, Monsieur Calvet est né en Tunisie. Il s'est intéressé à la chanson française. C'est un spécialiste de linguistique. Mais vous avez... Non, je pose la question parce que vous dites, et vous commencez bien en disant que vous l'avez connu de très près. Vous avez été un ami de Léo Ferré. C'est un homme qui est mort à 78 ans il y a 10 ans. Alors comment un jeune homme comme vous a-t-il pu être si près et ami de Léo Ferré?
Attendez, mais je suis né en Tunisie, c'est vrai. Mais j'y suis né en 1942.
Oui, enfin, ça fait jeune quand même.
J'ai 61 ans aujourd'hui. Ben écoutez, je l'ai rencontré. Bon, je l'ai connu comme chanteur bien avant de l'avoir rencontré. J'écoutais ses disques dans les années 50-60. Et je l'ai rencontré à une époque, début des années 70, à laquelle il chantait ce texte qui s'appelle « Je ne suis qu'un artiste de variété
oui.
sur la cause du peuple ». Et moi, à l'époque, bon, autour de gens comme Jean-Paul Sartre, comme Simone de Beauvoir, je m'élevais, je méditais contre la censure, et sans être maoïste, je distribuais la cause du peuple. Et donc, je suis allé voir Ferré dans sa loge, en lui disant « Écoute, c'est bien, enfin, écoutez, on se disait vous au départ, mais... » Comme au Québec, dans ces milieux-là, on se dit très vite « tu », vous savez. Bon, j'ai dit « c'est bien beau de chanter ça, mais il faut passer à l'acte, quoi ». Et on a mis sur pied tout un truc que je raconte dans mon bouquin. On a distribué la cause du peuple dans la salle de Bobino dans laquelle il chantait. Et de là est venue une longue amitié qui tenait peut-être au fait que Léo était fasciné par la langue, par les mots, et que moi j'étais prof de linguistique.
Voilà. Est-ce que c'était un ami facile?
Oh non. D'ailleurs, on s'est fâché, on s'est retrouvés, mais c'était tout sauf un homme facile.
Pourquoi est-ce que c'était un homme? D'ailleurs, quand on parle, je parle à mes camarades qui sont du même âge que vous, que moi. On parle de Brel avec un sentiment même d'affection, de tendresse. On parle de Brassens avec un grand sentiment généreux. Et avec Ferré, on a des difficultés. Pourquoi?
Parce qu'il faisait peur, sans doute parce que lui-même avait peur. Avait peur des autres. C'était un artiste généreux sur scène et très craintif et très enfermé dans la vie. Et là, vous venez de parler de Brassens et de Brel. C'est intéressant parce que bon, il se trouve que j'avais écrit une.
Oui, elle est belle d'ailleurs, cette biographie de Brassens.
Merci. Mais je l'ai moins connu que Léo. Hein,
oui.
Je l'ai croisé comme ça. Mais Brassens, c'était un peu. Enfin, un disque de Brassens sortait, on allait l'acheter. Et c'était un peu comme quand on va dans un restaurant où on sait que la cuisine est excellente. on y va sans attendre de nouveautés, parce qu'on sait que ça sera bon. Quoi. Mmh. Alors, on est habitué et ça ne trompe jamais. En revanche, chez Léo, chez Ferré, on avait toujours l'étonnement de la découverte, une sorte de mise en cause permanente, de changement. Il nous prenait un peu à contre-pied musicalement, textuellement. Et il y avait toujours le danger que la cuisine soit mauvaise, parfois. Mmh. Mais parfois, elle était plus que bonne.
Oui, oui, bien
et
sûr.
C'est vraiment, vous voyez ce que je dis, en fait,
oui.
C'est une métaphore, mais
oui.
C'était vraiment deux univers très différents. Et Ferré était tellement impliqué dans la vie sociale et politique, dans le monde, et tellement perdu dans des rêves et dans des réflexions, qu'il faisait peur et qu'il n'était pas du tout facile.
Est-ce qu'il a été, il a rompu avec Breton, il s'est fâché avec Sartre, il s'est même fâché avec vous, il a rompu avec Madeleine. Alors c'était un homme insupportable en fin de compte.
Oui, mais encore que ni Breton ni Sartre ne
sont... Breton était encore pire, oui, c'est vrai, oui. Vous avez raison.
Bon, il s'est fâché avec moi, d'accord. Oui, c'était un homme insupportable, mais c'était un homme tellement, tellement tendre et tellement gigantesque que... on pouvait parfois lui passer les choses. Ça n'a pas été mon cas, on s'est fâché longtemps, on s'est retrouvé, mais ouais, c'était...
Parlons, voulez-vous qu'on parle un peu de ses positions politiques, qu'on lui a reproché tant de choses, et est-ce que ça fait partie de la légende, les reproches qu'on lui faisait, ou est-ce que c'était justifié?
Mais quels reproches?
Les reproches d'avoir été riche, des reproches de pas avoir soutenu les gens de la gauche, des reproches dans ses conflits avec l'humanité, des jeunes qui allaient poser presque des bombes dans ses spectacles, qui étaient des marxistes ou pas du même trotskisme.
Oui, d'accord. Bon, il était riche, oui, il était riche, mais enfin, il n'a jamais braqué une banque, ni hérité d'un papa patron d'usine. Hein.
Mais celui que le reproche qu'on lui faisait de faire partie du système, que vous racontez bien.
Oui, mais enfin, il répliquait beaucoup mieux que moi que c'était Libération ou l'Idiot International, des journaux qui disaient ça, que ces journaux étaient aussi dans le système et qu'ils payaient leurs ouvriers et qu'ils les déclaraient à la Sécurité sociale.
Oui.
Non, tout ça est ridicule. Ce qui est sûr, c'est que Léo était très proche des gens de leur vie quotidienne et donc il a fait énormément de galas gratuits. Enfin, beaucoup de gens peuvent en témoigner, hein, dans les usines, pour soutenir une cause. Mais qu'en revanche, il n'a jamais signé le moindre texte pour faire voter Trucmuche ou machin, quoi, Mitterrand ou Rocard. Que de ce point de vue-là, il était tout sauf dans le système politique.
Oui.
En dehors.
Et quand il est en interview avec Brel et Brassens, il leur propose quelque chose qu'il refuse, un gala à trois.
Il m'en a souvent parlé, ça.
Oui, et ça, il leur en a voulu.
Oui, terriblement.
Pourquoi?
L'idée qu'il avait lancée, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, c'était... D'abord, cette interview à trois est un mythe. Hein.
C'est
extraordinaire, bon... un jeune journaliste a réussi à regrouper autour d'une table avec beaucoup de bière et de cendrier, Brel, Brassens et Léo. Et Ferré, à la fin, dit « Moi, j'ai un rêve, c'est qu'on fasse un gala à trois, on chante à tour de rôle, et puis à la fin, on se retrouve tous les trois, et on chante ensemble, en se tenant par la main. Il voulait chanter le temps des cerises. »
Oui.
Bon, les gens disent « Ah oui, ouais, bonne idée, mais enfin quoi ?» Et ça se fait pas, et en fait, ils le refusent. Mais il y avait quelque chose de prémonitoire, parce que ce sont les Québécois qui ont réalisé l'idée. Je me souviens de ce disque énorme avec « Quand les hommes vivront d'amour » qui est chanté à la fin, vous savez, par Charles Bois, enfin bon, les grandes...
Oui, fait les Leclerc et Vigneault.
Oui, Leclerc et Vigneault, bon. Et ça, je ne sais pas s'ils ont lu l'interview, mais enfin, en tout cas, ils ont réalisé, peut-être sans le savoir, une idée de Léo, c'est-à-dire de montrer que la chanson, le végétariat, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas sans arrêt la concurrence, et qu'on peut venir ensemble.
Oui. Mais est-ce qu'il y avait de la chaleur entre Brassens, Brel et Ferré? On a l'impression, même dans l'interview de Christiani, que Ferré est un peu séparé des deux autres.
Oui,
j'ai l'impression qu'il se méfie un peu de lui.
Il ne se connaissait pas, à vrai
oui.
dire. Ferré a longtemps pensé que Brassens lui avait volé le public anarchiste. C'est-à-dire que Brassens avait réussi, avec cette image de marque de l'anarchiste, c'est un anarchiste gentil, hein,
oui.
Bon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place dans ce monde dégueulasse et marchand, si vous voulez. Il n'y avait pas de place pour deux personnes qui se réclamaient de l'anarchisme.
Oui.
Et Léo disait, mais Brassens, c'est pas un vrai anarchiste. Bon, et c'est moi l'anarchiste. Et ils ne se fréquentaient pas. En revanche, Brassens et Brel, oui. Ils ont longtemps habité dans le même immeuble. Un jour où Brassens était très malade, Brel l'a amené à l'hôpital. Mais là, non, mais de toute façon, Ferré ne fréquentait pas beaucoup de chanteurs de sa catégorie et de sa, de son âge.
Oui. Vous êtes un spécialiste de linguistique. Est-ce que c'est la langue de Ferré qui vous a le plus plu et un peu son espèce de mégalomanie d'orchestration vers la fin de sa vie?
Non. Son orchestration, sa façon d'orchestrer, c'est ce qui me plaisait le moins chez lui.
Oui.
Sa langue, oui, mais surtout le rapport à... Vous savez, la chanson, c'est pas de la langue, c'est pas de la musique, c'est un mariage.
Oui.
Et c'est là où on voit une bonne chanson. Une bonne chanson, c'est quelque chose qui tourne parce que le mariage est réussi entre des mots et des notes. Et Léo, de ce point de vue-là, était un spécialiste de la réussite. Mais surtout, il avait un vocabulaire d'une richesse extraordinaire.
Oui, et alors ces emprunts et cet argot ferré et cet emprunt à l'anglais, ça vous étonne pas, ça?
Ben, je conçois qu'un Québécois puisse...
Non, mais au contraire, non, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
Non, mais non, parce que justement, c'est pour la bonne cause.
Oui, oui, oui.
Bon, c'est sans arrêt un mélange des genres ou des styles. Il casse les moules, il passe d'un vocabulaire extrêmement recherché. Parfois, il y a des mots qu'on ne comprend pas, hein, on prend le dictionnaire, à des mots très argotiques, en passant par des anglicismes, même s'il avait fait une chanson au début des années 60, la langue française, dans laquelle il attaquait le franglais, mais il n'en était pas une contradiction près.
Oui.
Non, moi, ça ne me dérange pas du tout, c'est ça la vie de la langue, hein. La langue appartient à ceux qui la parlent.
Et un mot seulement sur sa relation avec Madeleine, puisque là aussi, il y a des choses qui ont circulé à l'époque, qu'elle avait tué son singe, etc. Est-ce que ça a été une relation, et d'après ce que vous dites dans le livre, monstrueuse entre ces deux personnes, après les premiers moments qui ont été beaux?
Ce qui est monstrueux, c'est la fin. Elle n'a pas tué son singe, elle a fait tuer ses singes, hein, et son cochon. Enfin bon, ce qui est extraordinaire, c'est que la séparation est aussi grandiloquente que l'amour qui l'a précédé. Et j'ai le sentiment, mais ça je ne peux pas en jurer, qu'il a toujours aimé, enfin, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort.
Vous voulez dire qu'avec tous les méchants mots qu'il disait d'elle jusqu'à la fin, c'était toujours de l'amour?
Autrement, il n'en aurait pas plus parlé. Pourquoi est-ce qu'il en parlait encore?
Oui.
Pourquoi est-ce que même post-mortem, il y a une chanson, enfin un disque que son fils a publié après sa mort, par lequel il la traite de salope, de tous les mots, qu'est-ce qu'il a en fait? Enfin, c'est fini depuis 30 ans, tout ça.
Oui. Est-ce que la phrase qui le décrirait le mieux, c'est ce qu'il dit lui-même, « Je suis un immense provocateur », est-ce que c'est ça qui lui a plu autant dans la langue que de la musique toute sa vie?
Oui, mais mon cher ami, il dit pas oui, je suis un immense provocateur, il dit yes, je suis un immense provocateur. Et ça vient justement à l'appui de ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur l'anglais. Oui, bien sûr que c'est ça c'est une des choses qui le définit le mieux, mais il est aussi provocateur dans sa musique et dans le traitement qu'il fait de la chanson. D'un certain point de vue, il y a du rap chez Ferré.
Oui, oui, c'est vrai d'ailleurs, dans sa récitation.
Il y a des moments où il traite la langue comme les rappeurs la traitent aujourd'hui.
Oui, oui, oui. C'est une époque absolument, quand je regarde, je parle de ça autour avec des amis du même âge, on est à l'après-guerre et il y a Trenet, Brassens, Brel, Ferré, Béat. C'est absolument fabuleux cette période de la chanson française.
Oui, mais j'écoute aujourd'hui des disques de jeunes personnes, Benabar, Biolay, Delerme, je ne sais pas si on les connaît déjà au Québec.
Delerme, oui, oui.
Oui, Delerme, bon, j'ai écouté Delerme ce matin, justement, et peut-être que je pourrais me dire, ben tiens, dans 30 ou 40 ans, mes petits-enfants se diront, c'était extraordinaire ce qu'on écoutait à cette époque.
Monsieur...
J'espère, en tout cas.
Mais ce sera votre dernière biographie, vous en avez assez, là?
Ah, écoutez, là, je suis dans un livre de linguistique extrêmement complexe et ambitieux, et j'en ai pour plusieurs années à faire de la linguistique. Oui, j'en ai un peu assez. Sauf si vous voulez que je fasse la vôtre un de ces jours.
Monsieur Calvet, merci beaucoup.
Moi aussi, au revoir.
Assez, au revoir et bon dimanche.